Tribune PSG sur France Bleu.
Bonjour à tous, et oui, plus qu'un jour avant le premier grand rendez-vous de la saison, et on a déjà des frissons. Faut dire que cette année, la Ligue des Champions a décidé de nous mettre un petit peu, même complètement la tête à l'envers, avec le bouquet final avant les feux de Bengale, Paris. Paris est à Liverpool demain soir. Énorme affiche pour démarrer la compétition, club de légende, club finaliste de la dernière édition. Alors, les Parisiens sont-ils prêts? Quelle solution au milieu de terrain? On va aussi parler de ce premier gros test, très gros test pour Thomas Tuchel, du couloir gauche, par exemple. Aussi. Gros plan également contre l'affrontement de deux triplettes galactiques, la Mbappé, Neymar, Cavani, la MCN contre Firmino, peut-être Salah et Mané. Tout ça en compagnie du plus britannique des commentateurs de foot, j'ai nommé Mister Bruno Salomon en direct de Liverpool. Bienvenue à tous. Et on accueille évidemment toute la bande de Tribune PSG, puisque bien sûr vous ne serez jamais seul pour suivre ce grand choc contre ce club de légende, contre les Reds. Nous accueillons Émilie Ross, notre dame de clic, notre queen bee du clavier. Comment ça va, Émilie?
Eh bien, ça va très bien, et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent sur le Facebook Live. Bonjour à Glissou, Fabio, Guillaume, Alexandre, Frédéric, Patrice, Quentin, tout le monde est là et on est content.
Et on est content, bien sûr, de les accueillir et de t'accueillir, Émilie, également. Stéphane, tonton Steph, plus de 1000 matchs du PSG à son compteur.
Et un de plus demain. 1062 depuis vendredi. C'était samedi,
c'était vendredi soir. Bon, ça s'oublie pas trop quand même, petit 4-0 contre Saint-Etienne.
Très bien, ça fait toujours plaisir.
Bon, on va y revenir un petit peu.
J'ai été un peu déçu par les Verts.
Effectivement, on va en reparler un petit peu. On va surtout parler de cette répétition générale avant Liverpool. Le YouTuber Joss, comment ça va, Joss? Passionné de rap, de foot en général, et bien sûr. Du PSG en particulier.
Ça va très bien, merci.
Pas trop tendu?
Si, je pense que comme beaucoup qui ne croient pas en l'arrière gauche et au milieu défensif, mais on va se rassurer ensemble.
Venez rester avec nous, on va se rassurer ensemble. On a quand même des arguments et on va en parler également, évidemment. Nicolas Botman du site Paris Fan, on est toujours content d'accueillir des gens de la communauté, des grands sites supporters de Paris, à commencer bien sûr par Paris Fan. Comment ça va, Nicolas?
Mais en pleine forme.
En confiant, pleine forme.
On y croit, on sait
confiant.
Jamais.
Ouais.
Plus ou moins.
Plus ou moins. On va faire les plus, on va faire les moins.
Je suis content d'être là.
On sait jamais, finalement. Bienvenue également à notre maître technicien Joël, grand supporter également du PSG, Joël Spindel. Comment ça va, Joël?
Très bien, moi je suis très confiant.
Ouais, il est super
souci.
Détendu, mais,
ah
comment,
ouais,
mais comment tu fais pour être aussi détendu, Joël?
Bah, je suis vieux, j'ai des rien.
Ça aide peut-être. Et puis comme chaque semaine, comme chaque lundi, on accueille évidemment avec plaisir un digne représentant de nos amis de la bande du Parisien, du service des sports du Parisien, avec Sébastien Lieto. Comment ça va, Sébastien?
Très bien.
Moi, je sais aussi
pas, je sais pas si je suis confiant, mais en tout cas j'ai hâte d'y être.
Hâte d'y être, alors, c'est clair, ouais. Qu'on a tous hâte d'y être. Ouais. Et on va en parler pendant toute cette heure de cette magnifique affiche qui nous attend demain soir. Vous ne serez jamais seul aussi, parce que ben, ce soir, et surtout demain soir, ça va être peut-être un peu plus compliqué de suivre cette rencontre, n'est-ce pas, messieurs, dames, n'est-ce pas, Émilie? Pourquoi? Eh ben, parce qu'on a changé de diffuseur, que ça va être non seulement plus cher, mais un petit peu moins bien, en tout cas plus compliqué techniquement, hein, on va le dire.
Ça, c'est cadeau.
Voilà. Alors qu'en revanche, vous savez qu'il y a une valeur sûre, hein, c'est France Bleu Paris, une seule adresse pour suivre le match en intégralité, mais aussi l'avant-match, l'après-match en débrief avec vous, bien sûr, les auditeurs, les internautes, vos commentaires. Notre Bruno Salomon national qui est déjà, il est tellement pressé, Bruno, qu'il est déjà à Liverpool, et non seulement à Liverpool, mais en plus à Anfield Road. Comment ça va, Bruno?
Ça va bien, les amis. Salut à toutes et à tous, bienvenue à Anfield. On y est. C'est beau. Je vous le dis tout de suite, c'est beau. C'est beau. Le quartier est moche, mais après, c'est beau. Après, c'est beau. Non, c'est, voilà, quand vous arrivez dans ce quartier et ensuite, bah, vous voyez ces briques rouges qui se présentent, ce toit en métal, le COP, la statue de Bill Shankly, et après, je vous emmène on est dans les entrailles, là. On est directement, en zone, interview, là où Jürgen Klopp tout à l'heure est passé pour venir parler à la presse. Et de l'autre côté, ben, on a les journalistes qui sont en train de travailler, voilà. On ne verra pas le PSG s'entraîner aujourd'hui. Ils ont décidé de s'entraîner plutôt tranquillement du côté du camp des loges. Mais en tout cas, voilà. On est dans le mythe. On est dans ce club extraordinaire qu'est Liverpool. On va pas se le cacher. Voilà. 5 Ligues des Champions. Je vais pas vous refaire l'historique, hein, mais
Voilà, et on est quelques-uns, Bruno, je t'interromps, on est quelques-uns à vibrer avec toi sur les réseaux sociaux, Amélie. Hein.
Exactement, et donc Bruno, on a Alexandre qui te demande si le fish and chips était bon. On a besoin d'un débrief.
Il était très très bon.
Ça, c'est une vraie question,
je conseille. Hein, c'est une vraie question de fond. Fish and chips très bon dans les docks, dans les docks de Liverpool, parfait, franchement parfait.
On est rassuré. Alexandre est rassuré, merci.
Ça fait bien plaisir. Bruno, tu as assisté tout à l'heure à la conférence de presse, il y avait Jürgen Klopp. Yep. On va y revenir tout au long de cette émission, mais tu l'as senti comment l'entraîneur allemand, l'entraîneur de Liverpool ?
Ah, il est franchement détendu, il s'est bien marré avec le traducteur, parce qu'il y avait un traducteur bien sûr français qui était placé par les gens de l'UEFA. Après, il aborde quand même le match face au Paris Saint-Germain à pas feutré. Il a commencé à nous dire que, bon, on va pas parler de favori pour le groupe, mais le Paris Saint-Germain est quand même favori pour la victoire finale en Ligue des Champions. Voilà, ça vous donne à peu près le tempo, sauf que lui, il se rappelle pas que, bien sûr, il a été finaliste de la dernière Ligue des Champions, ce qui a pas été le cas du Paris Saint-Germain. Il a été vraiment aussi très... Allez, il a dit beaucoup de belles choses sur Thomas Tuchel, que c'était vraiment le bon choix pour le Paris Saint-Germain et qu'il était vraiment content pour lui qu'il soit désormais l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, beaucoup de questions autour de Neymar, mais très détendu, Jürgen Klopp, voilà. Et il a bien expliqué aussi qu'ils avaient vu les points faibles de l'année dernière de Liverpool, qu'ils avaient renforcé, bien sûr, avec Anderson Baker ou encore du côté du petit Keita, Balde, pardon, au milieu de terrain. Bref, voilà, mais très détendu, 20 minutes, très agréable.
On est ensemble pendant une heure pour parler de ce grand match qui nous attend demain soir. Petite parenthèse pour vous signaler, pour vous encourager à partager l'émission, puisque il y a ceci à gagner et on espère que ça va nous porter chance. Je l'ai choisi exprès, vous l'avez reconnu ou pas.
Allez, j'entends,
c'est une peau-pluche. Voilà, ah, c'est oui. Kylian Mbappé à gagner. Pour ceux qui partagent l'émission, bien sûr, il y aura un tirage au sort. On espère évidemment que Kylian va nous représenter dignement, nous autres les Parisiens, demain soir. Oui, il est collecteur en plus.
C'est numéro 29, Kylian. Ouais.
C'est ça, exactement. C'est son ancien, c'est un ancien numéro. Bien vendu, Jos.
Eh oui, partagez.
Merci. Est-ce qu'on est aussi détendu du côté des internautes? On va passer à la question des internautes. On vous a posé la question aujourd'hui. Est-ce que Paris est prêt pour ce grand choc?
C'était une question simple. Paris est-il prêt?
Cache.
Et alors, en fait, suivant les réseaux, le résultat varie. Sur Facebook et Instagram, majoritairement, vous dites oui, ils sont prêts. Sur Twitter, la majorité dit non. Donc, en fait, on a eu plus de 1000 votants au global. Donc, effectivement, ça se dessine à demi-teinte.
C'est partagé, hein.
C'est très partagé. Et je pense que aussi, quand on a fait notre tour de table tout à l'heure, en arrivant entre nous, je pense qu'on a tous mal au ventre comme une petite rentrée. En fait.
Est-ce que t'as mal au ventre, tonton?
Non, j'ai pas mal au ventre, mais je pense que Paris n'est pas prêt, évidemment, parce qu'il suffit de voir la composition d'équipe. Marco Verratti est pas là, déjà. Il est suspendu, et c'est embêtant, et c'est très embêtant.
On va y revenir, bien sûr.
Évidemment, puisque c'est un milieu de terrain, quand même, qui va partir un peu léger, hein, entre un Marquinhos qui, lui, n'est pas encore bien adapté au poste, et puis quelqu'un d'autre qui fera le troisième avec Rabiot, qui peut être Draxler, qui peut être Di Maria, qui peut être Neymar. Enfin bon, il y a encore beaucoup de possibilités.
Ou pas, hein, parce qu'ils peuvent être juste deux au milieu de terrain.
Ils peuvent être juste deux au milieu de terrain. Enfin voilà, en tous les cas... Ça,
mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup de questions, hein, d'où l'intérêt d'en parler.
Je considère
en tous
les cas qu'ils ne sont pas prêts, évidemment.
Ils ne sont pas prêts.
On pourrait même pousser un peu plus loin. Je pense que Meunier n'a pas retrouvé son niveau d'antan. Donc à part la défense centrale, le gardien et la triplette d'attaque, le reste, il y a encore du travail, à mon avis.
Tu es d'accord, Joël?
Ouais, je pense qu'ils peuvent pas être prêts déjà parce que il y a 5 journées de championnat, ils ont tous fait le mondial, ils arrivent tardivement. Je vois pas comment Tuchel aurait pu les préparer pour un premier match de poule. A priori, on s'attend à un match facile contre une équipe banale. Il se trouve qu'on a Liverpool et Naples dans le groupe, donc c'est compliqué. Ouais. Donc je pense qu'il faut pas trop leur en demander. Ils sont pas forcément prêts. Ils vont peut-être perdre le match. S'ils le perdent, c'est pas catastrophique. Et malgré tout, avec des Neymar ou des Mbappé, tout est possible, quoi. Donc ils sont pas forcément prêt, mais moi je pense qu'ils vont le gagner ce match.
Il y a quand même moyen d'être optimiste. Est-ce que tu es aussi optimiste, Joss?
Par rapport à la question, est-ce que le PSG est prêt par rapport à Liverpool? Je dirais que non. Il suffirait juste de regarder les matchs qu'on a joués. Guingamp, Angers, Nîmes, Saint-Etienne. pas trop d'adversité. On compare du côté de Liverpool, West Ham, Leicester et Tottenham. Tottenham qui est quand même un candidat à la victoire finale en Première Ligue. Donc ils ont déjà eu un petit peu d'adversité.
Et l'équipe... ils sont allés gagner, on le rappelle, ils sont allés gagner à Tottenham, chez eux, entre guillemets, à Wembley.
Ils ont le même bilan, mais peut-être face à des
c'est
adversaires.
C'est pas vraiment à Tottenham, ils jouent à Wembley.
À Wembley,
pas,
oui, enfin, le stade est encore en construction.
Ils jouent sur terrain neutre.
Mais ça montre voilà, que
l'équipe... Visiblement, on aurait pu faire beaucoup plus. 2-1, visiblement, c'était pas cher payé.
C'est vrai. Mais en tout cas, ça montre que Liverpool est plutôt prêt. Ils ont rencontré des adversaires qui étaient eux aussi candidats à une victoire finale en Première Ligue. Donc, compter aussi le fait que Paris n'a pas d'arrière-gauche, n'a pas de 6. J'ai quand même la sensation qu'on va avoir une mauvaise surprise demain.
Nico, de Paris fan, quel sentiment ?
Bah, comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis confiant, plus ou moins. C'est-à-dire, Paris n'est pas prêt complètement. Même si un jour Marquinhos devient un très bon milieu de terrain, je ne pense pas que ce sera demain soir. Il fera peut-être le minimum de la récupération, quelque chose comme ça. Après, Liverpool, ils ont rencontré des plus gros adversaires que ceux en Ligue 1, peut-être. Mais ils n'ont pas... Enfin, de ce que j'ai vu, ce n'était pas des matchs fantastiques non plus. Contre Tottenham, il y a beaucoup d'occasions, il y a aussi beaucoup de passes ratées. Il y a une défense qui, à la fin, craque sur un corner un peu bêtement. Salah, qui n'est pas du tout au niveau de l'année dernière pour l'instant.
On pourra aussi décortiquer les matchs du PSG depuis le début de saison. Ils n'ont pas fait un seul match plein, de bout en bout, depuis le début de la saison.
Ah, mais ça, c'est clair. Le problème pour moi, c'est qu'il n'y a aucune des deux équipes.
Exactement, une mi-temps sur deux à chaque fois, même face à Saint-Etienne. Hein. À la pause, on se regarde tous et on se pose des questions.
Moi, à la pause, je pensais qu'il y aurait un.
Surtout qu'on ne voit pas trop de plans de jeu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop pour l'instant où est la patte Tourelle là-dedans.
On va essayer de se projeter en tout cas dans l'avenir proche. Évidemment, quel système il va choisir, ça c'est une des grandes questions. Tu voulais ajouter quelque chose, Nico ?
Ce qui fait justement que j'ai un peu... Alors, si on prend les matchs du PSG, ils ne sont pas fantastiques non plus. Au moins, il y a eu des bonnes périodes. Alors, mon petit côté où j'ai confiance, c'est que j'espère, parce que souvent Tourelle a fait des tests un peu, et à la mi-temps, il rechange. C'est que pour une fois, dès le début du match, on est la bonne composition pour faire un vrai match. Il n'y a pas de certitude, je m'en rends bien compte, parce qu'on fait que des moitiés de match. Mais pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
C'est possible. On a vu que Paris sait faire une bonne mi-temps. Ils peuvent le faire peut-être deux fois, sept fois.
Moi, je pense que ce qui va être très intéressant demain, et on va savoir si Paris est prêt, même plus loin que ça, c'est logiquement, Paris va se faire rentrer dedans. Et Paris n'aime pas du tout qu'on lui rentre dedans. Toute la saison dernière, les saisons précédentes, on le voit. Exactement. Donc là, c'est le test. Si Paris se fait de nouveau trimballer, ça voudra dire que l'esprit n'aura pas changé. Et là, ce sera inquiétant pour la suite. À la limite, victoire, défaite, match nul demain soir, c'est plus l'état d'esprit qui va être intéressant.
Ce qui t'intéresse, c'est la réponse, quel que soit
exactement.
Le résultat
final. On répond. On peut perdre, mais on répond. Si on se fait marcher dessus comme au Bayern, comme face au Real, comme face au Barça, alors... Rien n'aura.
C'est clair que le mental va jouer énormément demain soir. C'est clair. On va en reparler un petit peu, juste pour finir le tour de table. Seb Nieto du Parisien, t'es assez impatient, tu m'as dit, mais très impatient comme nous tous. Mais au fond, tu t'attends à quoi ?
Non, très impatient et je m'attends, comme tu le dis, Stéphane, un énorme test pour Thomas Tuchel et ce qu'il nous a promis depuis quelques semaines, à savoir l'état d'esprit qui devrait changer dans ce club. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on attend demain. Voilà. Après, on va parler peut-être un peu après de la composition. On a déjà quelques indices sur le plan de Thomas Tuchel demain. Il va aussi faire avec les moyens du bord. Notamment en l'absence d'un grand milieu de terrain, comme il l'a encore regretté ce matin chez nos confrères de l'équipe. Donc, mais en tout cas, on a à Diètre. Et moi, je voulais juste souligner quelque chose, c'est que j'ai l'impression que Liverpool a quelques faiblesses, notamment sur les côtés. On l'avait vu en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, ils avaient souffert face à une grosse attaque. C'est ce qui pourrait sauver le PSG demain, le talent des trois génies de devant.
Alors tu l'as dit, hein, Seb, il y a un grand milieu de terrain qui va manquer demain soir. On va parler de ce milieu en question, c'est le premier thème de ce soir. Émilie, tu voulais nous dire d'abord quelque
chose ?
Oui,
des réactions de nos internautes, parce que ça réagit aussi forcément à ce que vous dites. Donc il y a Costa qui nous dit « Je pense que le PSG de Tourelle va enregistrer sa première défaite ». Fabio qui dit « Pas tellement confiant, Paris va vraiment avoir du mal face aux finalistes de l'année dernière et sans le milieu Verratti, c'est catastrophique. Sans lui, il n'y a pas de jeu, donc à voir. » Il y a Léo par contre qui dit « On va gagner demain, c'est sûr. » Guillaume qui nous dit « Ce n'est pas le match capital, il faut jouer le nul et ce sera déjà un bon résultat. » Patrice qui confirme et qui dit même un bon 2-2. Et enfin, Alexandre et j'aime beaucoup. Si on n'y croit pas, on n'y va pas. Allez hop.
Ah bah ça j'aime beaucoup ça.
C'est sûr. Alors moi j'aime bien l'enthousiasme des supporters toujours. Mais alors, si Paris perd demain, il commencerait quand même extrêmement mal la saison de Ligue des Champions. En se rappelant qu'il y a quand même Naples aussi dans l'équipe et que la double confrontation du milieu pourrait coûter très très cher au PSG.
Donc, Bruno à Liverpool. Exactement.
Ouais, bah, il a raison, Seb. C'est que le Paris Saint-Germain est coincé via son statut. Si tu te plantes demain, même si tu trouves une équipe qui s'est bien battue, etc., ça va pas le faire. Ça va pas le faire pour cette équipe qui va prendre déjà des coups de fusil de la part de toute la presse européenne. On attend que ça du côté des autres pays pour se dire qu'est-ce que fait le PSG. On peut plus avancer caché, donc il faut faire un résultat demain. Il y a un auditeur qui disait match nul. Effectivement, pour moi, ce qui pourrait sauver le PSG, c'est de s'en sortir au moins, au minimum, avec un match nul pour dire bon, allez, ça va pas trop mal se passer et le PSG. Mais si jamais tu perds 3-1, 3-2, 4-2, si ça part sur un gros, gros match.
Et puis la manière, va Bruno, c'est tellement une machine à gagner malgré tout, ce PSG. Est-ce que ça va pas aller, est-ce que c'est jouable? Qui rentre sur le terrain en se disant non mais juste on limite les dégâts et on essaie de repartir avec un nul. C'est jouable ça ? Jouable, t'en penses quoi ?
Non, moi je pense qu'il faut y aller pour gagner, mais je pense que si on a un match à perdre dans cette poule, c'est celui-là. Parce que Naples n'est plus ce qu'il était. Le favori du groupe, c'est comme Liverpool, malgré tout. Même si on a un super budget, etc. Ils sont finalistes de la dernière Ligue des Champions. Quand on lit les papiers dans l'équipe et autres, ou parisiens, on s'aperçoit que qu'ils sont encore plus forts que l'année dernière. Donc, s'il y a un match qu'on peut perdre sur tous les matchs qu'on va jouer, c'est celui-là. Évidemment, il vaut mieux pas le perdre. Mais je pense
mais
que ça sera pas catastrophique.
Tu sais que tu peux pas perdre. Jo, tu sais que tu peux pas perdre. Tu sais
moi,
que
je sais qu'on va pas perdre.
Et c'est ce que dit Thomas Tuchel dans son interview ce matin dans le journal L'Équipe. Il dit cette équipe du Paris Saint-Germain, quand elle affronte le Real Madrid, on voit déjà à l'attitude qu'il n'y croit pas.
Ben voilà,
donc en fait, en gros, déjà, nous, ce qu'il faut voir, c'est voilà, ce qu'il faut.
C'est le mental, d'accord. Change, c'est là, on est ça, d'accord.
Est-ce qu'ils ont le bide? Est-ce qu'ils ont le bide pour aller s'arracher et laisser une demi-jambe s'il faut face au Anderson, Lovren et tout ce que tu veux. Voilà.
Et
il va falloir se battre et être des combattants et pas perdre le sang-froid. Effectivement.
Mais là, on parle en effet de la forme. Il a raison, évidemment. Pour la forme, Tonton, il a raison. Après, si on le perd, c'est pas dramatique, mais il a raison.
Si il y a la forme, il y aura le résultat. J'en suis persuadé.
Non, mais je vois pas Paris rentrer sur le terrain pour jouer le match nul. Cette équipe, elle a été bâtie avec des. Quand t'as Neymar et Mbappé dans ton équipe, voire Cavani, t'y vas pour planter des buts et pour gagner. Après, effectivement, il y a des scénarios de jeu, il y a la façon dont les autres vont gérer en face et vont leur rentrer dedans et comment eux vont laisser passer leur âge à un moment parce qu'il arrivera très vite, évidemment.
La forme est importante, on est tous d'accord. Pour que la forme soit belle demain soir, ça passe d'abord par un beau milieu de terrain. Le milieu de terrain, on va en parler parce que c'est un petit peu en pointillé, c'est le moins qu'on puisse dire. On a un seul titulaire indiscutable. On sait qu'il y aura Adrien Rabiot. On sait qu'il n'y aura pas Marco Verratti puisqu'il est suspendu. On l'a vu faire une belle, voire très belle rentrée contre Saint-Etienne. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé autour de la table vendredi soir. Mm-hmm. On a vu son art de la passe. Du coup, c'est presque encore plus frustrant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Plus inquiétant aussi.
On se dit, il ne sera pas là contre Liverpool. Il aura bien dépanné quand même.
Verratti en Ligue 1, il se balade sur tous les matchs. À chaque fois, toute la saison dernière, toutes les saisons d'avant, dès que c'est un match de Ligue 1, il n'y a aucun problème pour lui. Il est vraiment supérieur techniquement.
Oui, en Ligue 1.
En Ligue 1.
Un joueur unique.
Il faut le rappeler.
Alors les amis, sans Marco, puisque du coup, on va faire notre deuil rapidement quand même. Marco, il n'est pas là demain soir. Qu'est-ce qu'on fait sans Marco? Est-ce qu'on est à 3?
On va pas raconter toute l'histoire du mercato, mais c'est quand même fou, vous avouerez, que Paris se retrouve au mois de septembre, premier match de Ligue des Champions, à se poser déjà des questions sur le milieu de terrain. C'est-à-dire que vous perdez Thiago Motta, la pierre angulaire du jeu depuis des années et des années, celui sur qui tout reposait, et s'il y avait un seul mec à transférer, à faire venir au Paris Saint-Germain, un seul joueur, peu importe le prix ou la qualité ou la jeunesse, c'était d'avoir une vraie sentinelle, quelqu'un capable de prendre ce poste-là. Et on se retrouve aujourd'hui, et pourtant la saison fait commencer, déjà à se poser des questions.
C'est marrant et c'est intéressant que tu insistes là-dessus parce qu'on le sait depuis maintenant plusieurs semaines, depuis en gros un gros mois, on sait que l'effectif au milieu est très très dépeuplé, mais c'est peut-être parce qu'on est au pied du mur rouge en l'occurrence, que vraiment on le réalise et qu'on se dit...
J'espère que les dirigeants, parce que Motta déjà l'avait failli arrêter il y a un an,
ils
n'ont pas eu le temps de se préparer.
Motta il y a un an, il dit déjà je m'arrête à la fin de la saison et j'espère rentrer dans l'encadrement. Donc il n'y a pas d'effet de surprise. Donc après, rien ne se justifie. Peut-être ni Bernat, ni
mais comment
ni
on peut autres. Expliquer cet inexplicable, justement? Comment? Parce que n'importe quel dirigeant de n'importe quel club aurait fait le geste de l'acheter, ce joueur. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Où il est? Qu'est-ce qui se passe?
Ça reste un mystère.
On aime tous le PSG, mais concrètement, au niveau transfert, tous les joueurs qu'on a fait venir ces dernières années,
Par exemple, je prends le cas de Lo Celso ou même de Julian Draxler. C'est des joueurs qui sont venus pour jouer à un poste qui n'était pas le leur. Draxler, aujourd'hui, il joue pas encore au poste auquel il est vraiment performant. Lo Celso, on l'a laissé partir. C'était soi-disant un joueur offensif. On l'a fait jouer sentinelle et aujourd'hui, on l'a perdu. Et il nous aurait quand même bien dépanné face à Liverpool. Donc, c'est clair qu'il y a un gros problème au niveau des transferts.
Le résultat, et j'insiste un petit peu là-dessus, parce que je trouve que c'est assez exceptionnel et très parlant, c'est que demain, au milieu de terrain, pour l'instant, on n'a qu'un seul partant sûr. Ouais. On n'a qu'Adrien Rabiot. Est-ce qu'on peut se permettre ça en Ligue des Champions?
Non. À partir des huitièmes de finale, des quarts de finale et des... Si ça va en quart de finale et il y a plus loin, ce sera impossible. Il y a un moment où ça va bloquer. À moins que Marquinhos se révèle, devienne un numéro 6 de génie, etc. Après, il faut aussi compter sur le retour de Marco Verratti à un moment. Il va pas être suspendu toute la saison.
Après, il y a une nouvelle règle aussi, c'est que les joueurs qui ont joué en poule en Ligue des Champions, durant le mercato d'hiver, pourront jouer pour une autre équipe en Ligue des Champions. Donc peut-être que cet hiver, le PSG va se réveiller et va nous ramener un 6 devant nous.
Alors on se projette un petit peu vous après Liverpool. Manu. Petite parenthèse, on se projette sur le mercato d'hiver. Est-ce qu'on peut, pour vous, finir la saison comme ça, au milieu de terrain? Ou est-ce que vraiment ça passe par un renfort de choc
pour gagner la Coupe de la Ligue? Oui, ça doit pouvoir le faire.
Ou alors vraiment, si Marquinhos devient exceptionnel au milieu.
On va en parler de Marquinhos, on va faire un petit peu une revue d'effectifs.
Il faut absolument que Paris se... Mais le problème, c'est qu'il y avait des joueurs qui étaient abordables, comme Nzonzi, qui a coûté 30 millions à la Roma. Aujourd'hui, les top players en 6, je penserais à qui? Peut-être Busquets, et encore. C'est impossible.
Ils ont tout axé sur Kanté, vraiment, d'une manière irréaliste. Et ça les a bloqués sur tous les autres transferts.
Voilà. Bruno, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, en fait, vous parlez de... Il y a une situation qui est quand même absolument géniale du côté du Paris Saint-Germain. C'est qu'on a tenté de draguer Fabinho pendant un an. Il est parti à Liverpool. Et qu'est-ce que fait Fabinho en ce moment pour 50 millions d'euros? Il est en train de cirer le banc là, avec son beau survêtement. Ce qui est quand même absolument génial. On n'a pas de 6 pour demain. On l'avait, t'avais qu'à mettre l'argent sur la table. J'ai Vincent Duluc du journal L'Équipe qui est juste en face de moi en train de se marrer sur l'histoire. C'est vrai, Vincent. Il est en train de secouer la tête. On n'a pas de numéro 6. Bilan des opérations. Il est sur le banc de Liverpool.
Donc,
tu viens à Paris.
Sortir quelques livres là, vas-y.
C'est ça.
Et le bonjour à notre confrère Vincent Duluc, bien sûr. Qu'est-ce que ça dit du côté des réseaux?
Ça réagit. Ça réagit déjà sur la compo qu'on pourrait avoir, parce que c'est effectivement une des thématiques qu'on a abordé là. Il y a Hussein qui nous dit, moi je dis Kimpembe en milieu. Cool. Il y a Sébastien qui nous dit un milieu Rabiot en sentinelle, accompagné de Draxler et Nkoukou. Olivier nous propose milieu Di Maria, Rabiot et... Il sèche à la fin. Il y a Tom qui dit « Vous pensez quoi de Marquinhos ? Parce que moi, je le mettrais bien en 6. » Et Patrice nous dit « Et Marquinhos ?»
Et Marquinhos. Non, mais c'est très bien.
Ils ont fait les matchs de Marquinhos en 6 ou pas ?
Ça fait 17 fois qu'ils sont en 6 en quelques minutes. Ça dit quelque chose quand même. Alors, Marquinhos, est-ce que demain, il faut s'attendre à Marquinhos ? Et si oui, à quoi peut-on s'attendre, Sébastien ?
On peut déjà donner deux informations pour... Après le dernier entraînement du PSG ce matin, les échos sont qu'il y a un choix entre deux systèmes, ce sera soit du 4-2-3-1, soit du 4-3-3, avec Marquinhos au milieu de terrain, aux côtés de Rabiot, à savoir maintenant si Di Maria se placera dans le milieu à 3 sur le côté gauche, ou si Di Maria prendra vraiment le côté dans un 4-2-3-1. Voilà, c'est la dernière interrogation. Okay. Ça, on n'aura pas la réponse avant demain. Ce qui est sûr, c'est que sur un 99,9%, c'est que Marquinhos prendra place au milieu de terrain.
Bonne et très intéressante info de nos amis du Parisien avec Sébastien Nieto. Alors, Marquinhos au milieu, content, Joël?
Non, moi ce que je ferais, c'est que je mettrais Marquinhos derrière et je mettrais Kimpembe à gauche, en défense, à la place de...
On va passer en défense tout à l'heure, mais
Kimpembe
sur le milieu, Marquinhos.
A joué à gauche il y a quelques années, c'est un type qui est d'une sûreté absolue.
Bruno. Kimpembe à gauche.
Moi je suis plutôt d'accord avec toi.
Il va vite, il est hyper fiable.
Sur la synthétique. Non.
Non. Écoute, laisse-moi finir. Il va vite. Le Tuchel disait toujours, faut mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. C'est pour ça qu'il veut mettre Di Maria absolument sur le terrain en même temps que Cavani, Neymar, Mbappé, parce qu'il a dit, un grand joueur, faut qu'il soit sur le terrain. Kimpembe, il est exceptionnel en défense, comme Marquinhos, comme Thiago Silva. Faut mettre les trois. Kimpembe, tu le mets à gauche, il se fera le boulot. Mieux qu'un Bernat, mieux que n'importe qui. Il fera le boulot. Ouais. Et à ce moment-là, moi, à mon avis, mais personne ne va être d'accord, moi, je mettrais Diarra au milieu. Parce que Diarra, mine de rien, il ralentit le jeu, etc.
Non,
mais il peut colmater. Il est roublard. Il connaît les matchs.
Il était, il y a encore 2-3 ans. Aujourd'hui, il est cramé, le joueur.
En tous les cas, vendredi soir, il n'avait plus tout ça.
Diarra, c'est deux titularisations au Parc des Princes cette année. Deux fois, il est sorti à la mi-temps.
C'est pas possible.
Oui, parce que le jeu nécessitait possibilité d'aller vers l'avant. On est entièrement d'accord.
Si mais quand tu dois être derrière. Diarra, c'est vrai que contre Saint-Etienne, pas très rassurant, mais énorme expérience quand même. Non, il a connu les champions, les grands.
Non, mais ça fera pas l'affaire. Il est quand même perdu contre Saint-Etienne.
Non, il est pas perdu. Le problème, c'est qu'on avait besoin de jouer vers l'avant. Et Diarra, en effet, il est pas fait pour ça. Il ralentit le jeu, etc. Mais pour couper les trajectoires, pour faire le job de défensif pour devant une équipe qui domine, mais demain, je pense qu'il peut faire le taf.
Demain, Liverpool ne dominera pas. Hein. Liverpool va. Je suis persuadé que Liverpool va lâcher le ballon comme ils l'ont fait contre Tottenham. Ils vont laisser la possession au PSG et eux vont jouer en contre.
Non, non, non. En fait, je pense que Liverpool, faut vraiment regarder les matchs. Liverpool, c'est pas une équipe de possession. C'est une équipe de contre-attaque avec deux ailiers qui vont à 100 à l'heure. Alors, comme on disait tout à l'heure, Meunier, il va avoir un sacré client déjà, qui va être Sané ou Salah. Et enfin, les latéraux vont Sané et Salah.
Ils vont permuter en plus.
Lassana Diarra, avec la vitesse de jeu, il est complètement largué. On l'a vu face à Saint-Etienne. Et quand on parle de Marquinhos en 6, moi je repense à son match contre Nîmes, où il est complètement perdu. Son travail est mauvais et ça entache.
C'est ça le problème.
Ça entache le travail de Marquinhos. C'est pas possible.
Il y aura Marquinhos, mais Marquinhos n'a pas convaincu.
L'enterrement de première classe de Marquinhos, faut arrêter quand même. Il est capable d'aller mettre des, sur le match de Nîmes, rappelez-moi quel est le seul joueur qui est capable d'aller mettre le pinceau, mettre des coups. Ce qui va peut-être être le cas aussi demain. Ça va être extrêmement physique. Tu vas avoir besoin de ce genre de profil. Je suis désolé.
Émilie, sur Facebook.
Ça réagit justement sur Facebook. Alors. T'as vraiment des supporters, donc les gens sont d'accord avec toi. Hein. Et il y a Coralie en plus qui dit mais oui et vous êtes méchant avec Lassana Diarra.
Méchant, on regarde
juste les matchs.
Ouais, c'est Tourelle qui a été méchant pour tout. Hein. Il l'a sorti direct. Hein. Il a c'était pas eu besoin de nous.
Et il y a Globule qui dit une bonne formule je trouve. Il ne faut absolument pas compter sur le milieu demain. On n'en a pas, donc il faut faire sauter le milieu.
Alors,
on peut finir ou comment ça se passe? Alors, je répète, Globule nous dit il ne faut absolument pas compter sur le milieu demain, on n'en a pas. Il faut sauter le milieu pour directement chercher les attaquants en mettant beaucoup de vitesse.
D'accord, et comment tu fais ça?
Il dit ça à Globule. Il dit ça à Globule, à la fois sérieusement, peut-être avec le goût de la provocation qui l'honore. Mais il n'a pas tort, il y a des chances quand même qu'on ait ce genre de séquence assez souvent. Non, demain soir.
Ah bah c'est là que ça
si Kimpembe est sur le terrain, oui, parce que Kimpembe, il s'élance.
Kimpembe, il adore ça.
Kimpembe, il adore ça. Mais on a vu face à des équipes de contre-attaque comme le Real Madrid l'année dernière, comment ça allait super vite, comment la défense était vite larguée, les placements, c'était beaucoup d'erreurs de placement, notamment sur le but de Cristiano Ronaldo. Là, la défense, elle est appauvrie. Le milieu de terrain, il est appauvri. Je vois pas comment on peut se passer du milieu de terrain face à une équipe comme Liverpool, où justement les milieux de terrain devront redescendre pour aussi aider les latéraux sur Salah.
Il y a des sceptiques hein, sur Marquinhos et sur le milieu de terrain en général. Cette stat qui est quand même assez parlante, malheureusement. 43% pour Marquinhos, 43% de duels gagnés en Ligue 1 seulement. C'est quand même pas fameux.
Le problème de toute façon, Tourelle l'a résumé ce matin encore une fois dans son interview, il n'a pas le choix aujourd'hui d'utiliser Marquinhos en 6. Il n'a pas de milieu, il est obligé de titulariser quelqu'un comme Marquinhos.
Un truc fou, moi je suis en train de penser pendant qu'on est en train de parler, et s'il mettait Rabiot en sentinelle en 6? Il a dit qu'il était bon dans ce rôle-là, que c'était pas ce qu'il préférait, je parle de Tourelle, hein, Tourelle a dit ça. Donc pourquoi pas imaginer Rabiot en sentinelle avec deux autres joueurs sur les côtes.
Ce serait dommage qu'il sacrifie cette année alors qu'il aurait pu le faire l'année dernière. Mais bon.
Qui seraient les deux autres joueurs demain?
Il faut ajouter deux trucs. On va en parler. Ça peut être intéressant.
Et Draxler.
Tourelle dit dans une interview qui est assez intéressante. Tourelle dit dans l'équipe. Aujourd'hui, que numéro 6 pour Rabiot, il y croit pas trop.
Sur un match.
Ça va pas trop le sens de ce que nous dit Sébastien Nieto du Parisien sur la compo de demain. A priori, ça serait deux défensifs, a priori. Oui, peut-être qu'il peut y avoir une surprise. Le 4-3-3, c'est pas complètement farfelu de s'y projeter, d'y penser. Ouais. Alors, ce serait qui avec Rabiot et pourquoi pas Marquinhos? Est-ce que Draxler, il a fait quand même un match. Un très beau match contre Saint-Etienne. Est-ce qu'il bouscule pas un peu les hiérarchies là sur ce coup-là?
Moi, je dirais qu'il y a deux joueurs qui sont sur le milieu de terrain, c'est Rabiot et Di Maria, parce que ils comptent sur Di Maria. On sait très bien qu'il y aura la MCN demain, donc Di Maria sera sur le terrain et le troisième, on ne sait pas.
Le problème de Draxler, c'est que c'est un joueur offensif, très beau joueur, mais bon, il faut aller faire le taf contre des vagues, ça va être compliqué. Quand on joue à Paris contre Saint-Etienne, oui, il fait l'affaire, évidemment qu'il fait l'affaire, c'est un grand joueur. Mais il va falloir mettre des taquets, etc.
Moi, je dis Bruno, il va falloir mettre le pinceau, mais.
Bah oui, mais Bruno a raison.
Il a quand même pas mal
Marquinhos n'est pas extraordinaire, il est intelligent. il va faire le boulot un minimum plus que tous ces joueurs qui sont des très beaux joueurs mais qui ne feront pas le boulot.
Nicolas de Paris Fan.
On dit beaucoup que Liverpool risque de contrer, alors ça a l'air évident. Marquinhos au moins aussi, je me dis que sur un contre, il faut se replacer en défense, il va savoir faire le boulot, que ce soit en arrière gauche, en arrière droit, en défense centrale, parce qu'il faut dépanner sur un contre. Là, il peut le faire. Pour juste faire une passe vers l'avant, bon, Marquinhos, c'est pas non plus nul techniquement. Il n'est pas génial dans la passe encore, mais
il dira. Il met des briques hein, devant. Hein.
Il met des briques, mais il peut faire une passe à 10 mètres devant lui.
On est au pays de la brique rouge. Mais...
Puis il peut même mettre une tête sur un corner, Marquinhos.
Et ouais, si je peux me permettre, pour le match de Nîmes où Marquinhos a eu beaucoup de mal au milieu, je trouve ça un peu dur de juger Marquinhos au milieu juste là-dessus, parce que le reste de l'équipe, globalement, ne bougeait pas.
Mais moi, c'est pas à Marquinhos que j'en veux. Marquinhos, je trouve même qu'il se sacrifie pour l'équipe.
Ah oui. C'est à Bruno que t'en veux, c'est à Bruno.
À Bruno, il te reste 24 heures pour nous mettre Fabinho sur le banc du PSG. Non, j'en veux aux dirigeants du PSG de ne pas avoir anticipé ce problème-là. On ne devrait pas parler de ça aujourd'hui début de saison. Qu'on perde un joueur en milieu de saison parce qu'il est blessé, parce qu'il y a des suspendus. Mais là, tout le monde est là à part Verratti et déjà le problème se pose. Ça va donner quoi un peu plus tard?
C'est pour nous remonter un petit peu le moral parce que c'est vrai qu'on se fait un petit peu peur là avec ce débat sur le milieu. On va essayer de se remonter un petit peu le moral avec le débat suivant. Cette fois, j'espère que j'ai le bon et voilà le bon bruit, coup de sifflet pour passer au débat suivant. Bruno, tu te tais s'il te plaît. Il y a une Poupluche, je vous le rappelle, à gagner, partager l'émission et vous gagnez cette magnifique collector Poupluche, comme le dit Joss, de Mbappé. Partager l'émission, tirage au sort, bien sûr. On passe donc au débat suivant. Les dirigeants du PSG, vous en parliez, Steph. Tonton Steph, ils ont quand même été ambitieux, en tout cas sur le poste d'entraîneur, puisqu'ils ont pris des risques en allant chercher ce Thomas Tuchel, sur lequel on avait pas mal d'a priori quand même. C'est le premier test pour lui. Ça va être très très intéressant de suivre ce match sous cet angle. Qu'est-ce que vous en dites, Émilie, avant ça, des réactions sur les réseaux sociaux?
Oui, j'ai un commentaire. Alors là, je vous interroge aussi. Il y a Christian qui nous dit que Klopp n'a jamais perdu contre Tuchel jusqu'à présent.
Alors, j'ai pas vérifié les stats, mais ils en ont parlé. Il y a une question à Jürgen Klopp tout à l'heure en conf de presse, et je crois qu'il n'a jamais perdu contre Tuchel et qu'il a des très bons résultats également contre Guardiola. La question était autour de profil de Tuchel et Guardiola.
S'il joue comme Guardiola, ça m'arrange. J'ai toujours des bons résultats contre les équipes de Guardiola.
Il y a une question autour de ça, donc je crois qu'il a un très bon bilan.
Bruno.
Oui, mais il a souligné une chose. Il a rappelé, il a dit, j'ai affronté Thomas Tuchel quand moi j'étais du côté de Dortmund et lui il était du côté de Mayence. Quand il était à Dortmund et moi j'étais avec Liverpool. En gros, il a fait comprendre qu'il y avait à chaque fois.
Là, pas il est avec Liverpool et l'autre est avec Paris, ça se tient.
Ouais. Enfin, on n'est pas un club de CFA, arrête.
Je pas ça.
Non, mais c'est vrai.
Aujourd'hui, il y a un club qui est finaliste de la dernière Ligue des Champions et un qui est huitième de finaliste. Donc, on n'est pas un club de CFA, on n'est pas non plus un finaliste de la Champions League.
On a perdu contre la même équipe.
Rapidement sur Thomas Tuchel avant de se projeter sur demain soir et sur en gros comment il va s'en sortir. L'entraîneur allemand. Ce début de saison, 5 matchs, 5 victoires, première quand même, il faut le dire, pour un entraîneur parisien. Il a réussi son début de saison, Thomas Tuchel, Nicolas?
Il a déjà gagné les 5 premiers matchs, c'est déjà bien. Après, dans le jeu, on a dit que tout n'est pas parfait, il y a souvent une mi-temps qui est ratée. Ce qui est compliqué pour le juger pour l'instant, c'est qu'avec la préparation qui a été gênée par la Coupe du Monde, il a eu son effectif très tard. Même Verratti, Kurzawa, l'arrière-gauche, il l'a que depuis un match. Donc je trouve ça un peu dur déjà de juger son bilan, mais au moins il a tout gagné. Et même s'il y a des mi-temps ratés, il y en a aussi qui sont très bonnes.
Joss, je te vois faire un peu la moue.
Moi, je dirais, parce que son bilan, il est bon, il est positif, donc pour l'instant, c'est réussi. Moi, je dirais que c'est plus sa communication qui est bonne. C'est-à-dire que chaque année, le Paris Saint-Germain doit gagner la Ligue des Champions. Lui, il a clairement dit, qu'on lui dit, est-ce que vous allez la remporter cette année? Il dit, dès cette année, il sait très bien qu'on ça va être compliqué. Il y a des grosses équipes.
Beaucoup pris l'exemple du Bayern. Il a dit au Bayern, on dit d'abord, on va gagner le championnat, et après, on voit.
Et le PSG, c'est une équipe jeune. On est huitième de finaliste. On est face à Liverpool, qui était en finale. Alors si on perd, c'est vrai que ça va être chiant, mais ça sera pas non plus dramatique parce que c'est le finaliste de l'édition.
C'est intéressant ce que tu dis sur la communication, parce que quand sa nomination que personne n'attendait a été annoncée, on est tous partis sur des gros clichés sur l'allemand autoritaire, bien sectaire, et en fait on a découvert quelqu'un
qui est
charmeur, très souriant, qui est beaucoup dans la communication, qui montre aussi très très souple dans sa façon de coacher avec déjà trois systèmes tactiques. C'est impressionnant quand même.
On est parti sur ce portrait-là parce que des gens nous l'ont décrit comme ça. On les les a pas forcément inventés, tous ces clichés. C'est des gens nous ont parlé de Thomas Tuchel, de quelqu'un qui était un peu froid, quelqu'un qui était très rigide, etc. Et en fait, ouais, évidemment, c'est tout le contraire. Je l'ai déjà dit à ce micro, mais c'est en termes pour un journaliste, c'est vraiment un plaisir de travailler face à cet homme-là, que ce soit en conf de presse ou dans les interviews. Franchement, il est même aujourd'hui, si vous lisez son interview, vous sentez son accent, vous l'entendez parler. Voilà, il est. Au niveau communication, il est parfait sur le terrain. Évidemment, ce sera dès demain.
Au niveau communication, il a déjà gagné la Ligue des Champions. Ça, c'est pas mal. Maintenant, il n'y a plus que le terrain. Mais et c'est bon.
En fait, la communication, on parle de la communication extérieure avec les journalistes, etc. C'est presque secondaire. Ce qui compte, c'est la communication à l'intérieur du groupe. Et je pense que c'est le premier entraîneur depuis très longtemps qui arrive à, je pense qu'il va arriver à fédérer ce groupe. Parce que quel que soit Emery ou même Blanc était assez distant. Emery, on comprenait pas toujours ce qu'il disait. Et je pense que même les joueurs ne devraient pas comprendre beaucoup. Oui, Ancelotti, parfait, mais il n'est pas resté assez longtemps. D'accord, t'as raison Bruno, Ancelotti parfait. Mais Tuchel, je pense qu'il a, j'ai l'impression qu'il sait comment prendre ses joueurs et que peut-être il va donner un esprit de corps à ce groupe. J'ai l'impression que c'est ça. À part ça, sur le jeu, je suis sceptique parce qu'on nous annonce toujours des révolutions de jeu. Là, il y a eu 5 matchs, c'est quand même 5 matchs. On voit pas ce qui se passe. Hein. Franchement, je vois pas où est la patte Tuchel dans ce jeu-là.
Non, le PSG, c'est vrai. Même que la saison dernière pour l'instant.
Émilie, avant de passer à toi, Nico, sur les réseaux sociaux. Sur
oui, donc ça réagit forcément. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, Jo, il y a effectivement Mickaël qui souligne qu'il a l'air très proche de ses joueurs. Frédéric renchérit en disant « Impossible de juger le travail de Tuchel pour l'instant, pas assez de recul. Par contre, on sent un groupe serein auprès de l'Allemand. » Il y a Steve Laura qui nous dit « Tuchel a un avantage, c'est que les joueurs le soutiennent, à la différence et par rapport aux anciens coachs. » Et après, on a Dooms, Drinksay et Coralie qui, de toute façon, ont confiance au coach et disent il faut lui faire confiance.
Nicolas,
c'est pour Manu.
Alors Bruno d'abord.
Pardon. Oui, pardon. Deux petites infos importantes. Le groupe parisien est monté dans l'avion. Ils sont en train d'arriver, hein, bien sûr. Ils sont installés et on a le groupe. Et juste pour info, il y a l'adjoint de Thomas Tuchel qui sera bien là, c'est-à-dire Gianluigi Buffon qui fait le voyage avec son équipe. Sinon, il y a pas de surprise, bien sûr. Lévin Kurzawa, Dani Alves et Marco Verratti ne sont pas du voyage. En revanche, Garrison Innocent sont de la partie. C'est un jeune gardien qui le troisième gardien effectivement. Et deuxième information extrêmement importante, et ça c'est pour Sébastien et la team parisien. La team du Parisien est bien arrivée. Arnaud est juste en face de moi, le photographe, et Dominique Sévrac est déjà en train de frayer dans les du côté d'Anfield.
C'est peut-être Dominique qu'on retrouvera avec plaisir demain soir lors de notre grande soirée Ligue des Champions sur francebleu.fr, puisque je vous le rappelle, c'est aussi en partenariat avec nos amis du Parisien, et vous aurez en exclusivité, en avant-première, les notes du Parisien pour l'après-match, dont on pourra évidemment débattre ensemble. Nicolas, tu voulais dire quelque chose sur Tuchel?
Rapidement. C'était sur la communication de Tuchel et le groupe. Je vois des choses depuis le début de l'année qu'on voyait plus les saisons d'avant. C'est les joueurs qui disent régulièrement « le coach nous parle et on aime bien ». Et je me dis « mais ceux d'avant, du coup, jamais ».
C'est les débuts, les premières déclarations des deux premiers mois d'Emery. Je pense qu'on reprend les déclats des joueurs, tout le monde dit que c'était génial. Évidemment. Tant que
mais
ça gagne,
beaucoup,
et c'est les
non,
débuts.
Pas beaucoup que
autant,
le coach
autant,
nous parle.
Autant, ouais,
parce
comme la
parce que les deux premiers mois, il ne faut pas en parler.
Je me méfie un peu des.
Je veux
bien les croire, mais je me méfie un peu de ces déclarations.
Le bizutage à la conf de presse de Tuchel, quand même, c'est unique.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai que c'est assez mythique.
On dirait qu'on a gagné
quelque chose. Quelque chose, quand même. C'est quand même assez exceptionnel.
Et sur l'aspect tactique, on n'a pas encore vu des choses sur tout un match, mais moi, on a vu deux révolutions. On joue pas que en 4-3-3. Après 5 ans de 4-3-3, on a changé. Et on fait des changements à la mi-temps quand ça va pas bien. Parce que ça fait 5 ans, quand ça allait pas, on disait
c'est
bon.
C'est vrai, c'est une grosse différence.
C'est pas faux.
Et là, on passe en 4-3-3.
Malheureusement, c'est tombé deux fois sur la Sanadiara, mais honnêtement, ça fait du bien.
On se dit pas juste en deuxième mi-temps. Ah, bon, bah.
Vous croyez qu'il met la Sanadiara exprès en première.
Pour pouvoir changer à la pause.
Justement, dans ces changements. Et justement, dans ces changements, puisqu'on parle 3 secondes de Saint-Etienne, la prestation de Moussa Diaby, on a quand même une petite pépite dans les pattes. Et bien drivé par Thomas Tuchel.
Qui vous a bien fait plaisir sur le quatrième but, Bruno. Hein.
Ouais, génial.
Ah ouais, non, franchement, il se met dans les intervalles, il fait des propositions,
il est
généreux.
Très dynamique, très dynamique.
C'est bien pour ça, Bruno, que j'ai pas compris ce fameux mercato, parce qu'il y avait tellement de bons jeunes derrière. On l'a vu pendant la tournée aux États-Unis et puis en Chine. Pourquoi ne pas avoir mis l'argent qui... Enfin, j'ai bien compris qu'il y avait le fair play financier. Pourquoi ne pas avoir mis l'argent qui restait plutôt sur un numéro 6, une vraie sentinelle pour 50 millions, plutôt que... et faire confiance aux jeunes, plutôt que d'aller chercher Kerrer, qui a finalement le profil de ceux qu'on a déjà à la maison et qui sont capables de faire à peu près la même chose.
Mais on parle du milieu là, Bruno. Claire. Qu'est-ce que tu penses de Nkunku? On pourrait peut-être... Il a quand même fait des matchs remarquables pendant toute l'avant-saison. Moi, quand je l'ai vu jouer, je me dis ça va être la révélation de l'année. Là, depuis 2-3 matchs, il joue moins. Mais c'est peut-être lui la solution.
C'est peut-être lui la solution. Après, il lui fait confiance.
Moins.
Est-ce qu'il y a assez d'expérience pour ne pas prendre le bouillon?
Il a l'air d'avoir la tronche, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, le gamin, quand même. Hein.
C'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours pas compris c'était quoi son poste, Nkunku.
Là, il joue attaquant.
Il est relayeur, quoi.
Il a remplacé Cavani. On comprend rien.
C'est vrai.
Et si c'était Choupo-Motin, je l'aurais dit. Non, c'est une blague.
Je suis déçu qu'il ne soit pas rentré, moi, vendredi. Je l'attendais.
Il devait rentrer, je crois. C'est la blessure de Silva à la fin qui...
Déception.
Passons, messieurs, dames, du côté de la défense. La parole à la défense, bien sûr, parce qu'il y a un gros trou dans le couloir gauche. En tout cas, un gros point d'interrogation, même si on a quelques idées. Puisque l'Espagnol Bernat a joué son premier match contre Saint-Etienne vendredi soir. Et on ne peut pas dire que ça a été très, très rassurant, Joachim.
Non, Bernat, il est en cours de forme complètement. Son dernier match, il date d'avril. Voilà. Il était complètement dépassé dès que les attaquants accéléraient.
Alors, sur les phases défensives, surtout.
Les phases défensives, il était dépassé. Alors, offensivement, il a montré quelques aspects techniques intéressants. Mais malheureusement, nous, on veut voir quelqu'un de solide en défense. Et j'opterais pour la solution Kimpembe à gauche. Parce que c'est la valeur la plus sûre à l'heure actuelle.
Faisons, tiens, un petit tour de table. Votre favori pour le couloir gauche. Donc, pour Joss, Kimpembe. Pour Nicolas.
Presque Nsoki.
Nsoki, Stan Nsoki.
Kimpembe.
Pour jouer.
Kimpembe.
Ah ouais, Kimpembe.
3 Kimpembe. Mmh.
Ah, je pense qu'il va faire jouer Bernat,
Le favori qui va jouer?
Votre favori.
Kimpembe,
4 et Kimpembe aussi pour toi,
ça. Non, Bernat.
Bernat, ah, quand même.
Bernat. C'est un spécial. Oui, parce que c'est un spécial du poids. Ça fait des années que Kimpembe n'a plus joué arrière-gauche. Il faut pas. Voilà, il est installé en tant que défense centrale. Il faut pas non plus trimballer les joueurs tout le temps. Et Bernat, il a quand même été acheté pour ça. C'est un joueur qui a joué sous Guardiola, qui a fait une grosse saison avec Guardiola, même si après il a connu des soucis physiques. C'est quand même un très bon joueur. Il a que 25 ans. Laissons-lui un peu le temps. Et je suis persuadé que Bernat.
Bruno, tu veux voir Bernat demain soir sur la pelouse dans le Finro. Tu l'as pourtant vu vendredi soir contre Saint-Etienne sur la pelouse du Parc. Et tu veux vraiment le voir?
Oui, on est obligé de le voir. Tu vas pas le flinguer. Vous n'allez pas déjà mettre une solution de remplacement. Donc pour l'instant, ça sera lui. Non, mais c'est vrai. Et après derrière, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas dire à Bernat, écoute, on t'a pris Kurzawa, il s'est fait opérer, on n'a pas de place, et finalement on ne va pas te faire confiance. Mais tu le tues,
mais
le joueur.
Bernat, il sait très bien.
T'es obligé de partir avec lui.
Il a cherché le dernier jour du mercato. Il sait très bien.
Non, mais t'es obligé.
C'est comme Choupo Moting.
Moi,
je suis.
Mais attends, il y a une solution à laquelle je pense pas. C'est Maxwell.
Non, mais je vais reprendre.
Maxwell, c'est encore le meilleur.
Je vais reprendre. Il sait très bien qu'on a pas confiance en lui, le pauvre.
Je vais reprendre les propos de Eric Rabé Sandratana, notre consultant qu'on retrouvera demain soir aussi pour cette rencontre. Sur les phases offensives, je suis désolé, il n'y a pas tout à jeter. Il n'y a pas tout à jeter sur Bernat. Il y a quand même des choses intéressantes. Excellent. Et Juan Bernat. Et après, effectivement, il faut qu'il prenne, il mette un peu de grillage entre les jambes et qu'il fasse le boulot. Mais sinon, c'est quand même pas non plus une cata. Ah, mais t'es obligé.
De toute façon, on est d'accord. Il y a le choix, mais il est quand même un petit peu limité. Il y a encore un petit peu moins le choix, je pense, du côté du couloir droit. A priori, donc ça sera Meunier. Hein. Meunier, qu'on aime beaucoup, qui a fait de grands matchs en Ligue des Champions. Mais alors cette saison, elle démarre quand même un petit peu difficilement pour lui.
Sa Coupe du Monde, elle a terminé tard comme tout le monde. Il a une préparation tronquée comme beaucoup de joueurs, notamment aussi les joueurs français. Tous ceux qui ont été dans le dernier carré de la Coupe du Monde, de toute façon, on va les voir. La préparation est difficile pour eux et Meunier va mettre un peu de temps à revenir. Voilà, il a tant mieux. J'ai envie de dire qu'il ait connu son creux de forme dès maintenant. Au moins, ce ne sera pas au mois de novembre quand ce sera vraiment important. Donc, j'espère qu'il va
retrouver la forme quand
enfant.
Arrivera Daniel Alves.
Voilà. C'est terrible, en fait, ce que je veux dire.
Il s'arrache un petit peu quand même. C'est vrai que physiquement, il pioche. Mais j'ai bien aimé, moi, vendredi soir, cette action. Je crois que c'était même la dernière. Il s'arrache vraiment pour empêcher un ballon de sortir, pour centrer. Et on le voit après sur le carreau, complètement cuit.
Mais je le reconnais.
Mais voilà, il s'était battu, moi.
Non, il est méconnaissable. J'ai l'impression qu'il a même du poids en trop. Dans ses courses, il paraît très très lourd. Honnêtement,
Manu a raison, on en est au problème de post-Coupe du Monde. Meunier, c'est un super joueur, il ne faut pas s'inquiéter pour Meunier. C'est conjoncturel pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont tous un petit peu à la ramasse.
Et Frédéric nous souligne que Meunier doit certainement encore avoir le seum.
Et ça fait du bien de rater. Oui, je pense qu'il est celui qui a le moins digéré l'élimination face à la France.
Franchement, ça a été un des plus sports. Enfin, il n'a pas été spécialement mauvais joueur.
Rappelle-toi qu'il a fait une déclaration il n'y a pas longtemps. Je suis rentré dans le vestiaire, je me suis fait chambrer au début. Je crois qu'il l'a moyennement digéré quand même. On attendait autre chose des Français.
Meunier et Bernat vont quand même passer une sale soirée. Il y a intérêt de serrer les boulons parce que quand tu vois ce qu'il va y avoir en face.
Ah bah voilà, je te retrouve Bruno. Je te reconnaissais pas là. Tu devenais tout fleur bleue là avec ton Bernat.
Parlons maintenant de gens qui vont, ça c'est sûr, qui vont courir beaucoup plus rapidement demain soir que Meunier. Je pense notamment à ce jeune homme, monsieur Mbappé. Je vous rappelle que vous pouvez gagner sa poupluche si vous partagez l'émission Kylian Mbappé. Et plus généralement, évidemment, il n'est pas seul, hein, lui non plus, Kylian Mbappé. Autour de lui, Cavani, Neymar. Alors je vous donne les stats de ce début de saison parce qu'elles sont vraiment pas moches. Mbappé, 3 matchs, 4 buts, une passe décisive. Cavani, 3 matchs, 3 buts, une passe D. Neymar, 4 matchs, 4 buts, 2 passes D. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut partir confiant avec cette petite triplette-là?
Il faut ajouter Di Maria.
C'est même la seule chose qui fait qu'on ne dit... Ce soir ici, Paris va perdre parce que on sait qu'avec ces trois-là, voire avec Di Maria, il y a la possibilité à tout moment, jusqu'à la dernière seconde, de renverser le match et de l'emporter.
Ouais, parce qu'on a parlé des deux latéraux du PSG, mais il faut parler des deux latéraux de Liverpool. J'insiste sur eux parce que Alexander-Arnold est pas très vieux. Robertson de l'autre côté, c'est pas l'assurance tout risque. Non. Ils ont pris un bouillon monumental en finale de Ligue des Champions l'année dernière face à Ronaldo, Gareth Bale.
Oui, mais dans la Roma aussi, ils l'ont pris. Hein. Ils ont pris un cadeau à la Roma qui n'était pas glorieux.
Non, mais quand vous avez
face à Mbappé, Neymar et Cavani,
c'est deux. Ces deux stars mondiales qui, à elles seules, sont capables à tout moment de vous gagner un match, évidemment que ça rassure. Et c'est, de toute façon, c'est simple. Hein. Si Paris, enfin, moi, je peux me tromper, mais si Paris demain devait ramener les 3 points de Liverpool, ce sera forcément qu'un de ces trois-là a fait quelque chose d'exceptionnel. Je vois pas comment ça pourrait.
Et Areola, aussi. Si on a un grand Areola.
Ah, ça, de toute façon, le gardien, là, c'est la base.
Il est un peu dans la forme de sa vie. Si on a le temps, on va en parler d'Alphonse Areola, ça c'est clair. Nico, tu voulais dire quelque chose sur notre MCN?
C'est juste qu'en plus, Cavani, on l'aime beaucoup, il se crée plein d'occasions, mais en général, il n'est pas forcément très efficace, mais cette année, je trouve qu'il a moins d'occasions, mais au moins il les met à chaque fois.
Ah oui, il a moins d'occasions.
Saint-Etienne, c'est même on lui fait pas la passe. Il se crée l'occasion, il obtient le penalty, il le marque.
Mais en stade, il est meilleur.
Il est prêt pour briller.
Trois tirs cadrés, trois buts.
Est-ce qu'on peut se dire là, tous autour de la table, et je pense aussi à toi, Bruno, qu'on a trois attaquants de classe mondiale, une triplette tellement exceptionnelle que même si, ok, au milieu, c'est pas la folie, même s'il y a des gros doutes aussi dans les couloirs sur la ligne arrière, grâce à ces trois-là, on peut quand même emporter plus qu'on va
encaisser. Le football, ça reste de marquer des buts. Tout le monde s'ignore un 5-4 demain.
Je pense que Paris a la meilleure attaque au monde. Tout simplement.
Les stats ne disent pas ça.
On s'inquiète, mais je pense que les gars de Liverpool, ils s'inquiètent aussi. Quand ils vont rencontrer Mbappé et Neymar, je pense qu'ils ne sont pas tranquilles du tout. Et le fait qu'ils ne soient pas tranquilles, ça peut quand même générer des dysfonctionnements à Liverpool. Parce que quand tu as peur comme ça, tu ne joues pas forcément de la même manière que quand tu rencontres West Ham ou West Bromwich. Donc, moi, je pense
qu'ils sont habitués aux grands matchs à forte intensité. Le meilleur trio offensif de l'année dernière, c'est celui de Liverpool devant la MCN. Alors, eux aussi, ils ont une grosse attaque, donc il va falloir se méfier. Eux, ils ont une bonne défense. On a eu aussi un premier jet de ce qui sera le duel Van Dijk-Mbappé. Donc, franchement, je trouve qu'on sous-estime beaucoup Liverpool. Trio offensif sur l'année dernière, c'est celui de Liverpool. C'est pas la MCN.
Oui, Mbappé a franchi un cap.
Avant de faire un tour avec Émilie sur les réseaux, d'abord Bruno, tu la sens comment cette triplette demain soir? Est-ce que tu sens ce match
triplette en fait? Laquelle on va la voir? Est-ce que c'est celle qu'on a vue en huitième de finale face au Real Madrid à l'aller où chacun veut faire son petit truc? Ou est-ce qu'on voit la MCN qui veut jouer tous les trois ensemble, collectivement, et qui veulent aller au bout de quelque chose? Si c'est celle-ci qu'on n'a pas encore. Alors on l'a vu l'année dernière contre le Celtic, etc. L'année dernière avec Emery, faut quand même pas tout jeter à la poubelle. Il y avait quand même eu un petit peu de connexion. Mais là, on va aussi voir la réponse de cette attaque-là à son entraîneur. Toute l'énergie que met Thomas Tuchel pour mettre Mbappé dans les bonnes conditions, Cavani dans les bonnes conditions, Neymar et Di Maria. N'oubliez pas Di Maria parce que Tuchel l'adore. Si ces quatre-là sont dans le bon état d'esprit à vouloir jouer ensemble, oui, tu peux jouer, faire un jeu de briques et ça peut se terminer en 5-4, ah, ça c'est clair.
Oui, c'est le béaba d'une possible victoire du Paris Saint-Germain. De toute façon, on sait très bien que si ces trois-là ou ces quatre-là s'entendent pas, alors tu t'arrêtes tout de suite et tu peux juste gagner
mais
le championnat.
Mais on a vu ce que ça a donné.
Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Mais on part du principe que cette année, ils ont enfin décidé de jouer tous ensemble pour le collectif.
Émilie, qu'est-ce qu'on attend sur Facebook de cette triplette ?
Justement, ça réagit par rapport à ça. Il y a Drixet, j'ai du mal à le dire, je suis désolée, qui nous souligne qu'on a quand même la meilleure attaque du monde. Et il y a Maxime qui nous explique que la MCN, elle est meilleure individuellement et la FMS, collectivement.
Alors on va finir.
Ça, ouais. Ça résume un petit peu effectivement tout ce que vous disiez. Et je tiens juste à rassurer Patrick qui dit qu'à nous entendre, on dirait que le PSG a une équipe de chèvres. Patrick, ce n'est pas du tout ce que nous disons, puisque nous appelons Tribune PSG.
Je vous trouve un peu dur dans les connexions entre les attaquants parisiens, parce qu'on voit quand même que bon, Cavani, c'est vrai qu'il est peut-être mis un peu à part, mais les trois autres, que ce soit Di Maria, Mbappé et Neymar, se cherchent quand même relativement souvent, surtout Mbappé et Neymar. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de dysfonctionnement. Ça serait plutôt un dysfonctionnement dû à leur style de jeu, parce que Cavani est un peu différent. Mais sinon, je ne pense pas qu'ils s'entendent si mal que ça. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Il a fait la différence cette saison à chaque fois, là, avec son magnifique but à Nîmes, et puis ce qu'il a fait aussi à Guingamp, il l'a fait surtout individuellement. C'est-à-dire que c'est à chaque fois le résultat d'une action perso de très haute qualité qui a fait la différence et qui a à chaque fois relancé le PSG. J'ai pas encore été marqué par les automatismes entre ces trois ou ces quatre-là. Ils se cherchent, c'est déjà mieux.
Ils se cherchent. Autre changement notable, en tout cas par rapport à la Coupe du Monde. Alors certes, Cavani et Mbappé sont plus ou moins sur l'avancée et c'est même plus que rassurant. Neymar, qui lui a traversé ce mondial plus que difficilement, il a été traité plus ou moins légitimement de râleur, de pleureuse. On sent que là, il y a un nouveau Neymar, que tu as d'ailleurs salué, même toi, tonton, dans Ici c'est France Bleu Paris, qu'on écoute tous les matins sur notre antenne. Tu as salué ce nouveau Neymar, est-ce que ça peut faire la différence? C'est vrai qu'on le sent plus impliqué, plus collectif, il parle, notamment Mbappé. Ça peut faire la différence, ça?
Ah bah oui, évidemment, puisque il est quand même arrivé avec une étiquette de superstar mondial, de meilleur joueur du monde, quasiment à égalité avec Cristiano Ronaldo et Messi. Je le dis, je le redis, il nous a pas montré ça l'année dernière, la faute à plein de choses, une adaptation, une blessure face à l'OM. Cette année, il me donne l'impression, un, de s'être acheté une conduite, et deux, d'être beaucoup plus collectif et d'avoir décidé, enfin, et tant mieux, de donner un coup de pouce, un nouveau coup de pouce à sa carrière. C'est indispensable. Il peut pas rater deux saisons de suite.
On en a parlé ici, la calinothérapie de Thomas Tuchel a l'air de fonctionner avec Neymar, il l'installe en 10, il fait tout pour le mettre dans des excellentes conditions. Neymar, en termes d'attitude, semble avoir changé, et plus collectif que jamais, on l'espère en tout cas.
Mais on sait que cet effort, il est à 90-95% tourné vers la Ligue des Champions, pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions, puisque c'est pour ça qu'on l'a fait venir évidemment Neymar. Est-ce que ça peut marcher ça, la calinothérapie? Est-ce que vous croyez un nouveau Neymar pour aller plus loin?
En tout cas, il est bien lancé, parce que je ne l'ai pas vu beaucoup râler contre l'arbitre. Je l'ai vu faire des passes, parce que ça a beaucoup manqué. Moi, le Madrid l'année dernière, le match aller, je lui en veux toujours, parce qu'il y a plusieurs actions où il est juste à faire une passe, il ne veut pas. Là, j'ai l'impression qu'il a compris cette année que il fera pas gagner le PSG tout seul. Il l'a pour aider les autres, pour jouer avec les autres. Je le vois même défendre des fois.
C'est vous dire. Le petit bémol, à mon sens, c'est que le fait de le faire jouer en 10 l'empêche d'être décisif dans la surface plus qu'il ne l'était. C'est-à-dire qu'on a beau dire il est perso, etc. Il avait mis quand même, je sais pas, 14 buts et 12 passes décisives en 6 mois, puisqu'il était blessé tout le reste de l'année. Et ce genre de joueur, en effet, il est perso, comme on dit vulgairement, mais il fait à lui tout seul, il te fait gagner un match dans la surface. Et de le faire reculer, c'est peut-être embêtant pour être décisif.
Moi, je l'aime bien en numéro 10 parce que je pense que c'est un mec qui a un jeu une vision, une anticipation qui fait que si il alimente bien des gars comme Mbappé, Cavani ou Di Maria, ça peut être gagnant-gagnant pour le PSG.
Et puis évidemment, c'est qu'il est d'accord.
Bah évidemment, en plus.
Il va peut-être mettre moins de buts, mais il fera plus de passes décisives. Et moi, ce que j'aime bien dans le fait qu'il soit 10 plutôt qu'à gauche, c'est que je pense que pour l'adversaire, il est plus difficile à contrer. Sinon, on sait d'où il part. Donc il se dit, on en met deux sur le
personne n'arrive à le contrer jamais non plus. Quand
et s'il est en 10, il peut se balader. Il n'y a personne qui pourra mettre tout le temps deux joueurs sur lui.
Ça, c'était pour la MCN. En face, c'est pas dégueu non plus, comme dirait l'autre, hein, puisque donc on a la FMS ou pas d'ailleurs, puisque donc Firmino. On n'est pas complètement sûr hein, qui joue demain. Il y a une petite incertitude. Alors, est-ce que c'est de la photo classique d'avant match ? Bruno, est-ce que tu as des infos à Liverpool ?
C'est pour être très clair, de la part de Jurgen Klopp, il annonce qu'il sera là. Hein. Enfin,
il n'est pas d'intox.
Voilà. Il n'y a pas d'intox. Il nous dit, bon, il fait mis à part un espèce de truc qui lui arrive en pleine nuit. Voilà, ça, il sera là. Il sera là. Bon. Justement, là, si on fait un petit comparatif, et c'est Joss qui disait tout à l'heure, c'est la meilleure attaque d'Europe, c'est celle de Liverpool sur cette année 2018. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir, en fait, puisque c'est quand même deux garçons, à noter que Yves Leroy aussi du Parisien vient d'arriver dans la salle de presse. Voilà, non mais c'est pour rassurer Sébastien qui est avec nous en studio. Voilà, tous ses copains sont arrivés.
Ça me rappelle une très vieille émission, ça.
Mais non, on dirait le mariage princier quand tu. Alors, il vient d'arriver la duchesse et le duc.
Tu t'organises un jour pour le patrimoine ou pas?
Bon, avant de remplacer Stéphane Bern, Bruno, on revient.
Non, mais juste, voilà, juste pour revenir sur cette attaque, il y a une chose, ce qu'a réussi Jurgen Klopp avec ces trois-là, c'est qu'ils jouent ensemble. Ce que nous, on attend, en fait, de Cavani, Mbappé, Neymar, que ce soit vraiment, mais à fermer les yeux, ils se connaissent par cœur, etc., c'est pas encore le cas. Eux, par contre, Salah, Firmino, plus Mané, effectivement, ils se connaissent désormais par cœur et c'est une machine de guerre.
Même si le profil de Firmino est complètement différent de celui de Cavani, enfin, je vais pas t'apprendre
ça. Ah oui,
ça,
Bruno,
je
suis pas... mais bien sûr. Non, mais c'est voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que Klopp a réussi à.
Ça, c'est vrai.
Il a trouvé ses trois joueurs et à les mettre en route, quoi.
Bah, c'est ce qui a
permis. Et nous, du côté de la MCN, elle n'est pas encore totalement encore à fond.
Bruno, ça fait des années que tu commentes le PSG, qu'il vente, qu'il pleuve, jusqu'au fin fond du Kazakhstan en Coupes européennes, et notamment en Ligue des Champions. Est-ce que c'est pas l'une des plus belles, si c'est pas la plus belle attaque que tu aies jamais vue en Ligue des Champions du côté de l'adversaire ?
Ah bah non, il y avait le Barcelone quand même, avec Suarez, Messi et Neymar, c'était pas non plus dégueu.
C'est pas dégueu.
Après, à titre personnel, là, si, voilà, pour moi, ici, c'est le football. Voilà, donc on est en Angleterre, on est à Liverpool, on est au pays et on est dans un antre. Après que cette attaque et que les Reds revivent grâce à Klopp et grâce à cette attaque, c'est l'une des équipes les plus spectaculaires pour moi. Par contre, oui, c'est pour moi l'équipe la plus spectaculaire que le PSG affronte en Ligue des Champions sur une phase de poule.
Alors justement, tu viens d'en parler. Maintenant, on va s'y plonger un petit peu dans cet enfer rouge qui attend
Manu,
demain.
Juste une chose.
Les Parisiens, dis-nous.
Je vais devoir bientôt vous quitter, les copains.
Okay.
Je sais que vous faites les marioles pendant que je suis pas là.
Non, non, mais
ça,
on sait
alors,
très
ça
bien
suffit,
qu'on t'attend au pub, hein, Bruno.
Oui, bien sûr.
Voilà, juste un dernier mot. Merci sur ce mot-là. 54 000 personnes demain dans ce temps. Ça te fait quoi, toi, de commenter un match du Paris Saint-Germain à Anfield Road, cathédrale du football?
Bah, j'avais deux rêves. C'était le Celtic Park et
travailler avec Emily Ross.
Voilà.
Pardon, j'ai compris.
C'est ça. Non, mais ça, je voulais pas qu'on le dise là. Enfin, voilà. Bon, ça me gêne un petit peu. Je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, voilà. Anfield Road et le Celtic Park. Et en deux ans, on vient de le faire. Pour avoir vécu des matchs à titre personnel ici dans le Field Road, je sais ce qu'on va vivre et ça va être une tuerie. Ça va être génial.
Et on va le vivre ensemble, bien sûr, avec toi, Bruno, qui va nous commenter ce match en intégralité demain soir. Je vous rappelle, avant match en intégralité, débrief de match, 4 heures d'émission ensemble sur 107.1 côté FM, francebleu.fr sur le web, 54 000 personnes. On en parle donc, on te dit bye bye d'abord, Bruno. Et à demain.
Bisous la team.
Salut Bruno.
Salut Bruno.
Et
à
on
demain.
Termine donc du côté dans le Field Roll pour parler de ce contexte quand même assez exceptionnel. Je le disais, 54 000 personnes qui vont chanter comme un seul homme demain soir. Est-ce que ça peut peser ce contexte exceptionnel sur le mental des Parisiens? Non, je te vois faire non.
Ça peut juste les galvaniser.
Ouais,
parce qu'ils sont pas dans un, ils vont pas être dans un climat hostile. Ils vont être face à des supporters qui vont encourager leur équipe et c'est pas du tout la même chose. Ils sont pas en Grèce ou en Turquie avec des types qui peuvent leur envoyer des bouteilles, des canettes ou je ne sais quoi sur les corners. Ça se fait pas en field. Ils vont supporter, ils vont être portés, enfin ils vont sentir l'événement et moi je pense que des joueurs avec une grosse expérience internationale D'autant plus, ça va pas du tout les gêner, je ne pense pas.
Non, j'espère pas. Ça serait triste que des Neymar ou quelque chose comme ça se fassent perturber parce qu'ils sont sifflés. Je veux bien que ça gêne un peu.
Vous même pas être sifflé.
En plus, sifflé, pas tant que ça. Pas beaucoup,
au pire, on a vu qu'en étant sifflé, Cavani met un coup franc à la dernière minute et tout est réglé.
À Marseille.
Non, mais il y a un an, ils ont vécu cette alors pour le coup, j'y étais, donc je peux en parler, mais cette incroyable ambiance du Celtic Park. Ils n'ont pas du tout été, voilà, ils n'étaient pas du tout timides, inhibés. C'était quasiment leur premier match ensemble à cette MCN, en plus, l'année dernière, à Glasgow. Voilà, cette année, c'est un peu la même ambiance qui les attend. Je pense que c'est quand même des joueurs, voilà, Joël l'a dit, des joueurs internationaux. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils soient.
Je pense même qu'ils préfèrent une ambiance comme ça que se déplacer dans des petits stades.
Tous les anciens qui ont eu la chance de jouer là-bas vous le diront, c'est un rêve de tout footballeur d'évoluer dans un stade comme ça.
C'est un rêve, mais qui parfois, et même souvent pour les clubs français, se transforme en cauchemar. Je vous donne quand même les statistiques, c'est pas pour vous calmer tous, hein, pour vous doucher, mais quand même, un club français a 4 chances sur 5 de perdre quand il joue à Liverpool, plus précisément sur 14 matchs là-bas. 78,6% de défaites. C'est quand même pas très rassurant. Une seule fois en 14 matchs, un club français a réussi à ne pas encaisser de but. Je dis pas lequel. Voilà. Non, mais c'est pas très rassurant quand
même. Non, mais aucune équipe du niveau du PSG, française, je veux dire, va se produire ou s'est produit à Liverpool aussi.
Mais quand même, c'est pas très rassurant. C'est...
Ah bah non, mais c'est bien pour ça, on en parle depuis maintenant une heure. Effectivement, on fait pas les fanfarons. On sera sûrement plus à l'aise quand il faudra se déplacer à Belgrade. Mais en attendant, c'est Liverpool.
Ouais, je suis pas sûr que je préfère aller à Belgrade niveau de l'équipe, évidemment.
Non, mais il n'y a pas photo. Non, alors là, pour le coup, faut voir. Si la Paris ne va pas s'imposer à Belgrade, je comprendrai plus rien.
Ce qui était dit avant, au niveau de l'ambiance,
pour les supporters,
voilà,
oui, d'accord.
Ça. Mais là, Belgrade, je pense, sera hostile carrément. Au Liverpool, c'est l'équipe plus gênante.
Je pense que ça n'a franchement rien à voir.
Le collectif, on a quelques garanties évidemment sur sa solidité. Il y a quand même des petits débutants dans cette équipe, ou à peine, même s'ils ont déjà un gros palmarès, je pense à Kylian Mbappé, mais qui a monté quand même quelques signes de nervosité récemment, c'est pour ça qu'il fait pas de Ligue 1. Est-ce que lui, il risque pas d'être facile demain?
Le public le public anglais est pas trop du genre à cibler.
Je parle pas du public, je parle aussi de l'impact qu'il y aura sur le terrain, parce que ça va être un gros défi.
Ça, il va être ciblé, mais comme Neymar, évidemment qu'ils vont leur rentrer dedans.
Il a été briefé, j'imagine. Pendant la Coupe du Monde, qu'il est prêt pour les rendez-vous. Il est très attendu. Les adversaires vont l'arrêter, mais
il fait rarement deux fois la même bêtise. Mbappé, c'est ce qui le différencie de ses collègues. C'est-à-dire qu'il apprend hyper vite. Il a le droit de faire des bêtises. Il a 19 ans. Mais en général, une fois ça va et deux fois non. Donc, je pense qu'il saura résister là cette fois.
Et puis de toute façon, à part lui casser la jambe, si quelqu'un lui fait une savanier, maintenant il sait.
Puis Liverpool, c'est pas la première équipe anglaise venue. C'est pas une équipe qui joue non plus. Ça va être agressif, ça va être intense, mais ce sera pas débouché en face.
On en parle, Émilie, sur les réseaux sociaux de l'ambiance en Anfield, de ce contexte un peu spécial malgré tout.
Alors, on en parle en disant, bon, attendez les gars, on va redescendre un petit peu globalement, et en disant, il y aura nos supporters, il y aura un cup, donc de toute façon, on va
2500 porter... Parisiens en tribune, hein, demain soir, et c'est clair qu'on pourra compter sur eux, c'est clair qu'on va les entendre.
Exactement. Donc c'est plus ce volet-là, en fait, qu'on voit sur Facebook.
Et on les salue d'ailleurs, évidemment, nos ultras parisiens, qui seront plus que jamais utiles demain soir.
L'ambiance dépendra du résultat. Hein. Si Paris met 1-0 rapidement, je peux vous dire qu'Anfield, ils vont vite s'arrêter de chanter.
Anfield va être vite climatisé, comme dirait l'autre. ça serait bien, ça nous ferait plaisir. Puisqu'on parle de score, tiens, un petit tour de table rapide pour avoir votre pronostic. Commençons par toi, Tonton.
Très franchement, c'est très très difficile.
Allez, match nul,
2-2.
2-2, Émilie.
2-1 et but de Di Maria.
2-1
pour Paris. Hein.
Ah oui.
Bah oui, les gars.
Je préfère. Doublé de Di Maria.
Non, but de Di Maria.
D'accord. Joël.
2-1 également. 2-1 pour Paris.
Pour Paris.
Ouais.
Moi, j'aime bien ça.
Elle est 3-2.
3-2.
Ouais. Pour Paris, allez. Parce que confiant, mais plus ou moins.
Confiant, mais pas trop. Bien sûr, quand même.
Confiant, mais flippé. Voilà. C'est un nouveau concept.
Joël, si tu vois quel score, toi. 2-1 pour Paris.
2-1 pour Paris.
Et toi, Seb?
Moi, je suis mon maître Stéphane Bitton. Ce sera de partout. De partout demain. Paris ne perdra pas.
Ok. Bon, on est optimiste, mais pas trop. Ce que vous savez, en tout cas, je le répète. Vous serez pas seul demain. Vous ne serez jamais seul puisque on sera ensemble et on vous retrouve, toute la bande. Demain soir, Émilie,
J'ai deux choses à vous dire. Ouais. Juste, Eric Rabessandratana qui sera avec nous aussi demain soir, nous dit effectivement 2-1. Donc, voilà. Tu vois, on est plutôt bon. Et je veux juste faire passer un message parce que donc, il y a Michel sur Facebook qui me me demande, wesh Emily, dis-leur qu'on a Thiago Silva derrière quand même, hein, et on n'a pas Nicolas Palois. Michel, je viens de transmettre ton message. Wesh,
merci Michel. Merci Michel, et rendez-vous donc demain soir, bien sûr, avec notre Rico National, Eric Rabessandratana, pour commenter avec Bruno, qui est donc déjà parti au pub, mais qui sera à l'heure demain soir, dès 20h, pour l'avant-match.
Demain,
match en intégralité, je vous le rappelle,
feu.
Non seulement avec Bruno Solomon, non seulement avec Eric Rabessandratana, mais avec la team de Tribune, avec toi Emily pour les réactions des internautes, avec toi Tonton.
On va réagir jusqu'à minuit ensemble.
Et
c'est
avec
magnifique.
Notre YouTuber Joss pour commenter donc cette magnifique affiche, quoi qu'il arrive, et nos amis du Parisien à la fin pour l'après-match. Rendez-vous donc demain soir à partir de 20h. D'ici là, bonne soirée et à demain. Ciao.
Salut à tous.
Ciao.